le rail comme les voies fluviales, ouais, que c'est forcément du collectif. C'est-à-dire que c'est collectivement.
C'est toujours du collectif. C'est toujours au moment de, du paiement, c'est toujours collectif.
Voilà. Eh ben, on va s'arrêter voilà. sur ce mot, paiement.
Non, plus que sur collectif.
Non. On va laisser l'antenne au Muse s'amuse, puisque Jean-Manuel est là.
Oui, j'ai vu ça. Le guide est dans le coin.
Le guide
suprême, où est-ce qu'il est?
Et puis, bon, nous, on va se retrouver donc. Alors, ce sera la même équipe. Hein, plus Frédéric,
voilà,
pour évoquer
et puis,
la commune façon, et peut-être plus précisément peut-être tout ce qui est autour du 18 mars.
Voilà,
hein,
voilà.
Si on veut bien. Nous serons le 18 mars.
Voilà,
on sera la commune, mais la déclaration de la commune et un petit peu les manifestations qui étaient contre jusqu'au 22 mars.
De toute façon,
on va faire tout le mois de mars.
J'ai dit à Fredo qu'il devait travailler sur le sujet.
Voilà, il y a intérêt.
Voilà.
Intérêt à s'impliquer.
C'est une date, ça tombe bien, c'est une date anniversaire. C'est
pas oui.
Ouais.
Faut pas louper cette émission. Amis auditeurs.
Auditrices.
Rendez-vous le 18 mars.
Alors, si vous avez tout ce qu'il faut avec vous, hein, les fourches, les fusils et tout, vous pouvez venir avec. Hein.
Mais c'est pas pour nous. Hein.
Non.
C'est pour les autres. Bon, voilà. Lance-nous le générique.
Voilà.
Et puis, on va remercier d'avoir écouté. Merci Norbert d'être passé.
Oui,
à dans 15 jours, le 18 mars. 19h30, 21h.
Il faut plus de gouvernement. Puis il faut plus non plus de république. Plus de sénat et plus de parlement.
Et là, cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal du
faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Qui sont ces hommes, ces comédiens, qui veulent la peau de mon citoyen, fièrement acquis par notre histoire, par nos défaites et nos victoires. J'ai honte. Pour faire valser le cœur de la reine, il faut bien sûr charmer la reine, mais tous jureront de leurs mensonges, de leurs promesses, de leurs jurons. Comme ils sont beaux ces prétendants, quand ils s'engagent si sobrement, dans leurs costumes fraîchement taillés, quel simulacre cette vérité. J'ai honte. Le geste souverain, la main de fer, mais au fond d'eux ne savent que faire, de ces gens-là qui désespèrent, qui placent leurs rêves six pieds sous terre. Quant aux affaires, je vous laisse seul juge, il y a des peines qu'il faut qu'on purge. À la santé de la République, il y a ces hommes qui se font du fric. J'ai honte. Puis on efface et on recommence, les mêmes arnaques, les manigances, les mêmes trafics qu'on influence. Quel abandon, ma douce France. J'ai pas d'amour pour ces gens-là, dites-leur à tous que j'ai dit cela, à ceux qui jurent de marcher droit dans la pénombre de leur foi. Quelle honte.
Nous étions quelques complices, Alfredo et le Germain,
que ses copains par malice avaient surnommé le cousin. Il y avait l'anglais de Boulogne, un adepte du tunnel, mon frère cadet de Gascogne, et puis moi l'intellectuel. On avait fait à Venise un petit casse-pacassin. On a filé jusqu'à Pise et on a discuté argent. Mais sur la tour, quelle misère! Alfredo s'est un peu penché. Quand on est dur en affaire, on finit toujours par tomber. È pericolo, è pericolo, sì. È pericoloso sporgersi. Dans un coucou d'avant-guerre, on partagerait bien. Mais le germain en colère insinuait qu'on le volait. Il nous a dit dans sa langue un truc du genre, faut pas pousser. Ça, même quand on en manque, ça vous donne des idées. È pericolo, sì. È pericoloso sporgersi. L'anglais, mon pauvre frère, sont tombés, quelle maladresse. Du haut des tours de Nanterre, sur un car de CRS. Dans ma villa de Marseille, moi, je cherche aux dérisions. En dormant sur mon oseille, une chute à ma chanson. È pericolo, sì. È pericolo, so sporgersi. È pericolo, sì. È pericolo, so sporgersi.
Elle est ma maladie. Ma fièvre familière t'appuie depuis toujours dans... Ses griffes sur la bête et gronde au jour le jour bas ses chansons d'enthousiasme. Elle est mon Jiminy Cricket, mon Clary, elle est mon idée fixe.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Bonsoir, désolé pour le petit retard. Nous sommes ce soir deux, donc moi-même Nestor Potkin, mais surtout à la technique Nicolas, qui va nous faire l'émission du point de vue de la table de mixage. Et d'ailleurs, on l'entendra peut-être. Alors, le problème technique, ça devait être un monstre dans un coin, parce que ce soir, notre thème sera peut-être un peu surprenant, les films d'horreur. Les films d'horreur. Alors, je vous explique pourquoi j'ai choisi ce thème. C'est que je suis tombé sur un livre que j'ai trouvé excellent, qui s'appelle The Monster Show, A Cultural History of Horror, donc le spectacle des monstres, une histoire culturelle de l'horreur d'un monsieur qui s'appelle David Skal, S-K-A-L, et c'est un livre qui analyse, on va dire, les structures psychologiques et les structures mythologiques qu'il y a dans les films d'horreur et dans ce qui est, on va dire, l'horreur commerciale du monde moderne. C'est pour moi un choix un petit peu surprenant parce que, pour être tout à fait franc, je n'aime pas les films d'horreur. Je n'en ai pas vu un seul de bout en bout de toute ma vie, sauf je devais avoir 6 ans sur la télévision de mes grands-parents. J'ai eu très peur, ça m'a flanqué des cauchemars, bon, qui n'ont heureusement pas duré longtemps. Et puis, depuis, je n'ai jamais vu un film d'horreur dans son intégralité. Et pour être tout à fait honnête, j'ai toujours trouvé que ce genre était d'une parfaite idiotie. Cela dit, ça me posait un... Il y avait quand même quelque chose qui me posait problème, c'était que, ma foi, les films d'horreur, et l'horreur en général, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Donc je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens se précipitaient dans les cinémas pour voir des films d'horreur. Alors, il m'est arrivé la même chose avec le sadomasochisme. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens en particulier étaient masochistes. Alors finalement, j'en ai fait un bouquin. Je ne vais pas faire un bouquin sur les films d'horreur, puisque celui-ci existe déjà. Et comme l'a signalé Nicolas, et d'ailleurs Fabrice de l'émission précédente, il y a bien entendu des dizaines et des dizaines d'excellents livres, en français aussi, qui ont été écrits sur les films d'horreur. Alors, une chose qui est claire dès le départ, l'extrême popularité des films d'horreur à la fois fait appel à des structures psychologiques, émotionnelles, etc., qui sont quasiment inhérentes à la condition humaine, mais on peut aussi dire que leur extrême popularité à l'âge moderne est due à la sécularisation, à la laïcisation de l'Occident. Nous, fort heureusement, nous commençons à nous éloigner des religions, en particulier des religions établies et organisées, et en réalité, les films d'horreur sont absolument bourrés de thèmes religieux. Tout d'abord parce que, en règle générale, ils font appel à des choses extrêmes surnaturelles. Les monstres ont des pouvoirs surnaturels. D'ailleurs, les monstres, tout simplement, dans les films d'horreur, existent. Fort heureusement, dans la réalité, il y en a quand même un petit peu moins, une fois qu'on oublie les partisans de l'extrême droite. Et puis, bien entendu, ces thèmes qui sont présents dans le monde du film d'horreur, eh bien, reprennent des thèmes qui sont déjà présents depuis des millénaires et des millénaires dans les mythologies du monde. Les dieux cruels, voraces, cannibales, destructeurs sont partout. Je rappelle que dans notre France catholique, eh bien, dans la Bible, Dieu, quand même, mine de rien, massacre toute l'humanité sauf Noé et sa famille. C'est quand même pas si mal que les massacres dans la Bible sont extrêmement nombreux. Et que dans toutes les religions du monde, on a des sacrifices, on a des châtiments, que le christianisme également, c'est quand même l'histoire d'un type qu'on crucifie, l'un des supplices les plus horribles, que Osiris l'Égyptien, c'est quand même quelqu'un qu'on va démembrer en 17 morceaux. Alors évidemment, maintenant, les films américains, quand vous démembrez quelqu'un de 17 morceaux, c'est pas assez. Mais enfin, quand même, on voit bien d'où vient l'inspiration de tout ça. Et M. Skal, non content de poser ceci dès le départ, nous rappelle ceci. L'obsession des films d'horreur pour la mort, eh bien, elle a deux sources au strict minimum. Tout d'abord, la mort, dans un monde qui est de plus en plus laïcisé, la mort devient très difficile à gérer. La mort a toujours été difficile à gérer pour les humains, parce que, on disparaît, on n'est plus rien. Donc effectivement, avec les religions, l'une des fonctions absolument obligatoires de toutes les religions, c'est quand même de dire qu'il se passe quelque chose après la mort, qu'on ne disparaît pas complètement. Mais quand on y réfléchit un peu, beaucoup de films d'horreur sont obsédés par l'idée de recréation. Je ne dis pas récréation, je dis recréation. Et très souvent, dans les films d'horreur, les monstres, et parfois les victimes, renaissent. Ils ont été modifiés, radiation, malédiction. Et puisqu'ils renaissent, ils ont vaincu la mort. On y reviendra, mais c'est très important. Et Scal montre ici quelque chose aussi qui... il dit beaucoup de choses qui, moi, en tout cas, une fois que je les ai lues, je me suis dit, mais quel con je suis, pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé auparavant ? Les fêtes foraines, et là, j'espère que Nicolas est un peu surpris, parce qu'il dit, comment ça, les fêtes foraines, qu'est-ce que ça a à voir avec l'horreur ? Mais oui, hein, on est d'accord, dans les fêtes foraines, il y a toujours des chambres des horreurs, des trains, des châteaux hantés, des... Et, en fait, Scal nous dit que une fête foraine, eh bien, c'est le fait de frôler la mort constamment. Dans les fêtes foraines, il y a des monstres. Dans les fêtes foraines, il y a beaucoup d'activités, de jeux qui sont là, qui sont censés provoquer la peur physique. Il y a des armes. Hein, on prend des fusils et on tire. Bon, on tire sur des ballons, d'accord, mais enfin, on tire quand même. Et puis, l'une des choses les plus caractéristiques des fêtes foraines, et ça, là aussi, je dois reconnaître que le bon Scal, il a vraiment des idées intelligentes. Dans une fête foraine, il y a des roues, n'est-ce pas ? Il y a des roues qui tournent. Mais la roue qui tourne, par exemple, dans l'hindouisme, c'est le symbole du cycle de la vie et de la mort. C'est le symbole de la vie, de la mort, de la renaissance, de la réincarnation, etc. C'est le symbole de l'impermanence, de la permanence de l'impermanence. Non, c'est, quand on y réfléchit, c'est très vrai, ça, cette histoire de permanence de l'impermanence. Donc, merci à M. Scal de nous avoir expliqué ce qu'étaient les fêtes foraines. Son livre, néanmoins, commence principalement par, puisque c'est principalement un livre sur l'horreur dans le cinéma, bien entendu, sur le début du cinéma. Alors, le tout début du cinéma, Lumière, les frères Lumière, Georges Méliès. Je recommande d'ailleurs fortement le musée Méliès, dont j'ai assuré une visite il y a encore même pas deux ou trois jours. Dans les films de Méliès, il y a quelques monstres, mais qui sont gentils, qui sont drôles, qui sont ridicules, qui font peur à personne. Il y a quelques trucs bizarres avec des têtes qui se promènent, mais c'est pas des têtes de monstres, c'est une histoire de magicien qui veut surprendre. Seulement, voilà. Méliès, il arrive juste avant Nicolas, Monsieur Georges Méliès, qu'est-ce qui se passe ? Il crée ses films et puis en 1914, qu'est-ce qui se passe, Nicolas ?
Une petite guerre ?
Une petite guerre. Je savais bien que Nicolas connaissait l'histoire. Donc, la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle provoque ? Eh bien, elle provoque une marée de mutilations, de corps éclatés, démembré, défiguré. Et là-dessus, notre bon Scal, commencer à voir quelles en ont été les conséquences à la fois sociales, psychologiques et artistiques. Alors tout d'abord, là aussi, il m'a un petit peu surpris, là aussi je me suis dit quand même, comme une nouille, j'aurais dû y penser avant, le surréalisme. Attends, quand on y réfléchit, le surréalisme, c'est plein de corps bizarroïdes, de corps décapités sur lesquels on met autre chose, sur lesquels on met un bout d'animal, un bout de casserole. Et le surréalisme, c'est pas étonnant. On savait déjà évidemment qu'il y avait des liens avec la Première Guerre mondiale, mais cet aspect du corps démembré, défiguré, et du lien donc entre le surréalisme et la Première Guerre mondiale est très fort. De même, où tout le monde connaît les peintures de Gross, hein, Grosz, ces horribles corps, où là, il n'y a pas du tout de symbolisme, le bon Gross, il montre réellement les mutilés de la guerre. Et donc, Scal va nous parler de au moins quatre choses qui ont à voir directement avec les conséquences de la Première Guerre mondiale. Alors, la première, c'est un film très célèbre, qu'à nouveau, je n'ai pas vu, mais tout le monde a vu au strict minimum une photo de son personnage principal. Alors on va voir, je vais mimer pour Nicolas le personnage principal. Nicolas est-il en train de deviner ?
Je crois que Jean-Manuel essaie de me faire penser à Dracula.
En fait. Avant Dracula.
Avant Dracula. Ah oui, Nosferatu.
Nosferatu. Alors, rappelons que Dracula, c'est un livre du 19e siècle, c'est de Bram Stoker, mais à ce moment, très précisément en 1921, eh bien, il y avait une dame qui était la veuve de Bram Stoker qui avait encore les droits sur l'histoire de Dracula. Et donc on veut faire un film, et puis on dit non, on ne va pas lui payer des droits. Donc on reprend quasiment la même histoire, simplement au lieu qu'il s'appelle Dracula, il va s'appeler Nosferatu. Il y a eu évidemment des problèmes légaux, mais je crois que la pauvre dame a perdu. Et donc notre bon Scal nous sert une excellente analyse de ce qui est présenté dans Nosferatu. Tout d'abord, Nosferatu c'est donc un vampire, on va en parler, mais d'abord c'est son aspect. Il a une tête de rat. Et il est tout pointu, il est tout en croc, il a le crâne pointu, il a les yeux pointus, il a les oreilles pointues, il a évidemment des canines, il a des doigts très très longs qui se terminent par des ongles très pointus, très longs, et donc c'est bien un rat. Et là, à nouveau, on a un autre thème constant de l'horreur qui relie l'horreur moderne aux plus anciennes religions, l'animisme, le mélange entre l'humain et l'animal, qui peut être un mélange heureux, qui peut faire qu'on se prend pour un beau cheval, pour un bel oiseau, pour ceci, pour cela, mais qui peut en même temps être quelque chose qui provoque l'anxiété ou qui est, on va en parler bien entendu, qui peut être une espèce de libération du sadisme. Alors, on aura beaucoup d'analyses du vampire, bien entendu, mais lançons-nous dès le départ. L'une des caractéristiques les plus étonnantes des vampires à l'occidental, c'est qu'ils sont non morts. Un vampire, c'est quelqu'un qui devrait être mort, mais qui n'est pas complètement mort, donc il n'est ni vivant, ni mort. Donc, encore un thème qui reviendra très souvent, tous ces monstres, toutes ces entités bizarres dans les films d'horreur, ce sont des entités qui mélangent des mondes ou des statues sociaux, ontologiques, biologiques, qui ne devraient pas être mélangés. Et puis, ce non-mort, à nouveau, qu'est-ce qu'il provoque comme dynamique psychologique? Bon, évidemment, ça joue sur la peur de la mort. À la fois parce que le vampire va nous tuer, mais mine de rien, l'extrême popularité des vampires, c'est justement qu'ils échappent à la mort, puisqu'ils ne sont pas morts. Donc, deuxième désir que les films d'horreur et les vampires satisfont, le désir de renaissance. Troisième désir, là, c'est le sadisme. Bien entendu, les vampires permettent de projeter le sadisme qu'on peut avoir de façon à ne pas s'en sentir coupable, puisque c'est lui l'abominable qui l'a. Et comme mine de rien, on n'arrive pas à ne pas se sentir coupable, eh bien, la peur que l'on ressent dans les films d'horreur, nous la ressentons, enfin, en tout cas le public qui va voir ces films, la ressent comme la punition justifiée de cette projection, de ce désir de violence exercé sur les autres. Bien entendu, on a aussi là une référence, alors là c'est pas du tout dans le livre, mais c'est dans un de mes livres, et c'est un livre dont pour lequel je n'ai aucun mérite, puisque c'est un résumé d'un excellent auteur dont j'ai déjà parlé, Paul Diehl, grand psychologue franco-autrichien, et qui a eu un mot très utile, la satisfaction illusoire. Bien entendu, quand on regarde un film de vampire, et en particulier un vampire comme celui-ci, qui est comme un rat, on a la satisfaction illusoire de voler les forces des animaux. Par exemple, le rat, on sait bien que les rats sont des animaux avec une énergie pas possible. Les rats sont des animaux qui, s'ils sont coincés, n'ont plus aucune peur. Les rats sont également un symbole de la libération de la plupart des contraintes sociales. Et par conséquent, il est très évident que le personnage du vampire, eh bien, c'est un personnage qui nous permet de prendre nos désirs pour des réalités, expression populaire de la chose, ou de nous vautrer dans la satisfaction illusoire. Avec un peu de chance, nous allons avoir deux.
In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad.
C'était George Thorogood, Bad to the Bone. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, mais avec les muses s'amusent, avec Nestor Potkin ce soir au micro que je vais ouvrir de ce pas.
Et c'était donc Nicolas qui désannonçait. Donc nous sommes toujours à parler des films d'horreur, et plus exactement de l'excellent livre de David Scal, en anglais, j'espère que ça sera traduit un jour, de Monster Show, A Cultural History of Horror, donc une histoire culturelle des films d'horreur. Nous venions de parler de Nosferatu, 1921, et en gros, à la même époque, arrive un autre film qui est sans doute l'un des... Oh, je vais être méchant avec les gens qui aiment ce genre. L'un des moins niais des films d'horreur, j'espère qu'on me pardonnera, qui s'appelle Le cabinet du docteur Caligari. Alors, la structure du film, à mon goût personnel, n'est pas très intéressante. En revanche, du point de vue visuel, eh bien, c'est sans doute l'essai le plus proche que le cinéma commercial a essayé d'aller dans la direction du cubisme. Parce que quand on regarde ce film, eh bien, il y a tout le temps des angles très bizarres, des points de vue un peu extrêmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est un film dont on parle loin des analyses de l'horreur. Mine de rien, il y a quelque chose, donc il y a un lien aussi, c'est que il faut se souvenir que le cubisme fait partie de cette vague dans l'art moderne occidental, dans l'art visuel occidental, dans la peinture, où on va de plus en plus se débarrasser de l'histoire, de la narration. Déjà, les impressionnistes avaient clairement dit qu'ils n'avaient pas envie de raconter des histoires. Et bien entendu, dans le cubisme, il n'y a plus du tout d'histoire. Mais c'est à ce point dans le cubisme qu'en plus, il y a très peu de représentation. Dans le cabinet du docteur Caligari, malgré tout, on voit quand même encore ce qui se passe. Mais il y a autre chose qui rend le cabinet du docteur Caligari important. C'est qu'il lance également dans le cinéma un thème qui va avoir énormément d'importance, qui est le thème du machinisme et de... Alors, à la fois le machinisme, de la science devenue folle, et de la médecine également devenue folle. Alors, il faut rappeler ceci, j'espère que les médecins et les infirmières et les infirmiers, les doctoresses et les docteurs, les chirurgiennes et les chirurgiens qui m'écoutent ne seront pas choqués, mais je pense qu'ils ne le seront pas. La chirurgie, il y a quand même un côté sadique. Vous êtes là, vous prenez votre scalpel et vous ouvrez les gens. Et c'est quelque chose que beaucoup de chirurgiens et de chirurgiennes savent très bien. Il y a une espèce d'ambivalence. Et puis, également, il y a quelque chose avec la psychologie médicale qui est que, assez souvent, curieusement, beaucoup de gens qui entrent dans les professions médicales sont des gens qui ont très peur de la mort, quelque part, qu'ils l'admettent à eux-mêmes ou non. Et évidemment, s'engager dans la profession médicale, c'est une manière de conjurer cette peur de la mort. C'est un peu comme le fait qu'il y a tant de psychologues et de psychiatres qui ont tel ou tel problème mental éventuellement sérieux et qui, par conséquent, vont dans une profession qui va les aider à combattre ce problème. Et puis, ensuite, Scal parle de quelque chose. Et là aussi, j'ai été ravi, j'ai appris quelque chose. Grand guignolesque. Quand on dit, ah oui, ça, c'est grand guignolesque, ou c'est du grand guignol. Bon, tout le monde sait qu'à ce moment-là, c'est quelque chose, c'est de l'horreur et de l'horreur un peu ridicule. Oui, mais, mon très cher Nicolas, le théâtre du grand guignol, où est-ce qu'il était?
Je l'ignore. Absolument.
Eh bien, je l'ignorais moi aussi. Et j'ai découvert que le théâtre du Grand Guignol se tenait à moins de 100 mètres de là où j'ai passé toute mon enfance, une enfance fort heureusement protégée des films d'horreur. Il était rue Chaptal. Le bâtiment est toujours là. Ça n'est plus le théâtre du Grand Guignol, c'est un théâtre qui fait des pièces de théâtre pour les sourds. Ça s'appelle The International Visual Theatre, un excellent théâtre que je recommande très vivement pour les personnes malentendantes. Et le Grand Guignol a été fondé en 1897. Vous me direz, on s'en fiche? Non, on s'en fiche pas. Parce que 1897, c'est, nous fait remarquer Scal, à la fois l'année de publication du Dracula de Bram Stoker, et deux, c'est la première fois qu'on utilise le terme psychanalyse. Donc quand même, 1897, quelle année importante. En plus, l'adresse exacte du théâtre du Grand Guignol, Nicolas, je suis sûr que tu vas te précipiter, c'est cette cité Chaptal. Alors il y a la rue Chaptal, c'est juste à côté du 20 rue Chaptal, mais comme c'est cité Chaptal, c'est un cul-de-sac, c'est une impasse. on est coincé. Et le théâtre du Grand Guignol a très rapidement, s'est très rapidement spécialisé dans le répertoire le plus sanguinolent possible. Et c'était des pièces en général courtes, donc dans une soirée, on voyait deux, voire trois, parfois même quatre pièces qui étaient toutes caractérisées par un torrent de sang fou bien entendu, coulant un peu partout. C'est une chose intéressante à propos de ces pièces, vous vous rendez compte, il y a des gens qui se sont tapés de lire les 200, 300, 400 pièces qui ont dû être présentées dans ce théâtre. Comme on est en France, eh bien, les personnages cruels, dangereux dans ces pièces sont beaucoup plus rarement des monstres et en fait beaucoup plus fréquemment des fous. Et en général, justement, des intellectuels, des médecins, des scientifiques. Eh oui, on est en France, un pays dominé par les intellectuels. Et beaucoup de ces fous, de ces médecins fous, sont en plus des psychiatres. Et là, à nouveau, j'ai appris quelque chose avec cet excellent livre. C'est que les auteurs de ces pièces pour le Grand Guignol travaillaient très souvent en collaboration avec M. Binet, B-I-N-E-T. Alors, il y a des auditrices et des auditeurs qui m'ont dit « Ah mais oui, bien sûr !» Alors, si vous ne savez pas qui était M. Binet, c'est un psychologue extrêmement sérieux. Et c'est lui qui a lancé toute l'histoire qui va déboucher très rapidement après lui sur le QI, le quotient intellectuel. Le premier test sérieux, en tout cas qui essaye d'être scientifique pour mesurer la capacité intellectuelle, eh bien c'est le test de Binet-Simon. Et si je ne m'abuse, c'est lui qui va pondre le concept d'âge mental. Donc l'âge mental c'est quoi? Si vous avez 12 ans d'âge mental alors que vous en avez 10 biologiquement, c'est que vous réussissez des choses que la majorité des enfants de 10 ans ne réussissent pas, mais que la majorité des enfants de 12 ans réussissent. Alors, le lieu lui-même devait être quelque chose d'assez fabuleux, puisque, à nouveau, attention, vous êtes prêts, c'était une ancienne chapelle. Il y avait des anges au plafond de ce théâtre où on ne représentait que des horreurs et que des démons. Mieux encore, comme c'était une ancienne chapelle, et attention, on monte un degré de plus, une ancienne chapelle pour des bonnes sœurs. Donc les bonnes sœurs avaient des loges. Alors comme il y avait des loges et que ces loges étaient discrètes, eh bien que se passait-il dans les loges du théâtre du Grand Guignol? Les gens baisaient à tire-larigot. Et il arrivait donc assez souvent que dans le public, voire les acteurs, crient à un couple en pleine action de hurler moins fort parce que ça dérangeait tout le monde. Alors ça n'était pas la seule source sonore du public. Les spectacles étaient tellement ignobles que il était fréquent que les spectateurs vomissent et il était également fréquent que des spectateurs ou des spectatrices s'évanouissent. Et il y avait même quasiment une espèce de règle non écrite bien sûr, mais un spectacle était vu comme pas bon s'il n'y avait pas au moins deux évanouissements pendant la pièce. Et le Grand Guignol, pendant relativement longtemps, recrutait des docteurs ou des infirmières pour être présents dans la salle, et évidemment, disait ça dans sa publicité. Nos spectacles sont tellement horribles que nous sommes contraints d'avoir des docteurs dans la salle. Et Scal cite une autre statistique qui, là aussi, est quelque chose qui introduit un thème absolument constant, malheureusement, dans tout ce genre de l'horreur. Nicolas, la plupart des victimes dans les films d'horreur, dans les pièces d'horreur, est-ce que ce sont des mâles velus, virils, à phallus érigés?
Je crois que ce sont plutôt des femmes, généralement.
Oui, hein, c'est curieux. Hein. C'est en général des femmes.
Voire des jeunes femmes.
Est-ce que ce sont des vieilles femmes au pouvoir sexuel relativement, au pouvoir d'attraction sexuelle relativement
plutôt jeunes et innocentes.
Jeunes et innocentes, ou alors jeunes et pas innocentes, mais enfin en tout cas jeunes, et normalement au pouvoir d'attraction sexuelle extrêmement important. Ah donc, il y a donc cette statistique qui nous révèle beaucoup de choses sur le patriarcat dans l'horreur. L'actrice la plus la plus fréquemment utilisée dans le Grand Guignol, une dame qui s'appelait Paula Maxa, M-A-X-A, je ne sais pas si c'est un pseudonyme, mais bon, en tout cas, c'est le nom qui est dans le livre. Elle a été, es-tu prêt Nicolas, elle a été la femme la plus assassinée dans le monde. En gros, elle a été assassinée 10 000 fois de 1917 à 1930, de 60 manières différentes. Tu imagines, il y a vraiment quelqu'un qui a compté tout ça. C'est peut-être elle, espérons que ce soit plutôt elle. Et également, pas très un détail peu ringoûtant, elle a quand même été violée 3000 francs. Alors, 3000 fois, bon, violée métaphoriquement, enfin, en tout cas, pas réellement, faut l'espérer. Enfin, en tout cas, c'est l'une des choses qui était présente dans ces spectacles. Alors, il y a eu un auteur particulièrement prolifique pour le théâtre du Grand Guignol, qui s'appelait André de Lorde, L-O-R-D-E, et il a écrit 150 pièces, enfin, presque des scénettes plutôt que des pièces, pour le théâtre du Grand Guignol. Alors, par exemple, l'une des plus célèbres s'appelait Le Laboratoire des Hallucinations. Et le scénario est extrêmement simple. Un chirurgien, rappelez-vous, je vous ai parlé des chirurgiens, un chirurgien, tout d'un coup, se rend compte que l'homme sur lequel il doit opérer, donc l'homme qu'il a anesthésié sur sa table d'opération, c'est l'amant de sa femme. Alors, évidemment, il va se venger. Donc, il lui ouvre le cerveau et il le change en un zombie criminel. Oui, mais, dans l'horreur également, dans les films d'horreur, il y a souvent quelque chose de moral. Donc, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? L'amant zombie criminel, quelle est la première personne qu'il tue? Nicolas, je sens que ta compréhension des ressorts dramaturgiques est absolument parfaite. Le Grand Guignol a donc eu son heure de gloire principalement entre les deux guerres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas été particulièrement brillant parce que le directeur du Grand Guignol à cette époque, eh bien, était clairement un collabo. Et à ton avis, Nicolas, dans le public, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait qui ?
Quelques Allemands, par exemple.
Qui a fait des chats, qui a fait des uniformes absolument brillants et extrêmement bien propres et qui venaient quand même admirer des histoires totalement zinguinolantes.
Il n'aimait pas le Grand Guignol ?
En tout cas, c'est très clair que pendant l'occupation, une grande, grande partie du public a été constamment constituée des nazis qui venaient voir ces pièces. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le Grand Guignol va péricliter et il va fermer finalement en 1962. Et Scal cite l'interview d'une professionnelle qui avait travaillé au Grand Guignol et elle dit ceci: on ne pouvait pas égaler Buchenwald. Avant la guerre, les gens savaient que ce qui se passait sur scène était impossible. Plus maintenant. C'est quand même tout à fait parlant. Alors toujours en parlant de ce qui se passe avec la Première Guerre mondiale, les plus jeunes des auditrices et des auditeurs ont sans doute oublié ce que c'est, mais il y a une génération qui doit s'en souvenir encore un peu. Nicolas, tu te souviens peut-être comme moi que quand nous étions enfants, les billets de la Loterie Nationale étaient vendus au bénéfice des gueules cassées. Mmh. Et qu'est-ce que c'était que les gueules cassées ? Eh bien, c'était tous ces soldats malheureux.
Tous les blessés de la Première ou Seconde Guerre mondiale.
Voilà, les blessés de la Première Guerre mondiale, et également de la Deuxième et des autres.
Et même la vente leur était réservée.
Exactement, c'était pour leur donner un métier. Et c'était donc des gens qui avaient en particulier des blessures faciales absolument abominables. Or, qu'est-ce qu'on va avoir justement après la Première Guerre mondiale ? On va avoir un metteur en scène qui, de nos jours, est connu pour un seul film, Todd Browning, qui est l'auteur du film Freaks, donc le film sur les monstres d'un cirque. Mais en réalité, Todd Browning est quelqu'un qui a fait des tonnes de films d'horreur dans tous les sens et tous les azimuts, et puis des films plus ou moins normaux, entre guillemets. Et les gens qui ont connu Todd Browning et qui ont parlé de Todd Browning en ont fait un portrait qui, personnellement, me semble indiquer quelqu'un qui devait être un peu sadique sur les bords, un peu psychopathe sur les bords, à moitié ivre la plupart du temps, mais extrêmement contrôlant pour tout le monde, très solitaire, pas amical pour dessous, glacial. Et ce metteur en scène, Todd Browning, un peu sadique, avait un acteur favori, un mec. Probablement pas d'histoire homosexuelle, mais enfin bon, évidemment, on n'en sait rien. Et ce mec s'appelait Lon Chaney, L-O-N, et le nom Chaney, C-H-A-N-E-Y. Alors, personnellement, j'ignorais tout de M. Lon Chaney, mais le Fabrice, notre animateur de l'émission précédente, quand il a vu que j'allais faire un truc sur les films d'horreur, eh bien, c'est l'un des noms qui lui est venu tout de suite à l'idée, donc je présume qu'il est très connu chez les gens qui aiment ce genre. Et Lon Chaney, clairement, lui, il était maso. Alors, je m'explique. Lon Chaney a eu des tas de rôles où il jouait tout un tas de monstres abominables, mais une des caractéristiques des rôles de Lon Chaney, c'était qu'il était presque toujours contraint de porter des prothèses et des maquillages extrêmement contraignants. Par exemple, il y a un film où, à nouveau, puisqu'on est après la Première Guerre mondiale, c'est l'histoire d'un homme qui n'a plus de jambes. Hein. Elles ont été coupées au niveau des genoux, et donc ce pauvre gars se balade sans jambes. Et donc par conséquent, Lon Chaney, pour pouvoir être filmé, eh bien, ses jambes étaient par conséquent repliées contre ses cuisses. Et pour qu'on les voie le moins possible, eh bien, ce repliage était extrêmement contraignant. Eh oui, mais contraignant à tel point que ça lui coupait la circulation sanguine, et que, très souvent, le tournage était contraint de s'arrêter parce que le Lon Chaney s'évanouissait. Or, les témoignages qu'on a sur la manière dont il se conduisait pendant le tournage, mais également dans tous les moments de pause, il ne réclamait pas qu'on lui enlève ça. Donc, c'est très très clair, le gars était profondément masochiste. Et tant Browning que Lon Chaney ont vu le potentiel commercial de la chose, et par conséquent toutes ces souffrances terribles souffertes par M. Lon Chaney pour le bénéfice du public, eh bien, elles étaient dans la publicité des films.
Moon, maiden, way out there in the blue. Moon, maiden, got to get with you. I've made my approach and then revolved. But my big problem is still unsolved. Moon, maiden, listen here, my dear. Your vibrations are coming in loud and clear. 'Cause I'm just a fly-by-night guy. But for you, I might be quite the right do-right guy. Moon, maiden. Moon, maiden. Lady de Luna. Listen here, my dear. Your vibrations are coming in loud and clear. I'm just a fly-by-night guy. But for you, I might be quite the right-do-right guy. Moon maiden. Moon maiden. Lady de Luna.
toujours sur Radio Libertaire, c'est les Muses s'amusent, Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et ce soir, dans les Muses s'amusent, c'est l'horreur.
L'horreur! Incidemment, le morceau était de Duke Ellington et ça s'appelait Moon Maiden, la demoiselle lune. C'était très mignon, en réalité. Alors, nous parlions donc du livre de David Scal, The Monster Show, A Cultural History of Horror, le spectacle des monstres, une histoire culturelle de l'horreur. Et nous parlions très précisément du couple sadomaso, constitué par le metteur en scène Todd Browning, le metteur en scène de Freaks, et son acteur favori, Lon Chaney, qui clairement avait une dimension extrêmement masochiste. Alors, j'en donne un autre exemple pour Lon Chaney. Il a joué le bossu de Notre-Dame. Il a joué Quasimodo. Alors, paraît-il que son maquillage pour ce film de Notre-Dame de Paris, eh bien, ça faisait 25 kilos de caoutchouc à porter à la fois sur le visage et le corps. On l'appelait « The man of a thousand faces », l'homme aux mille visages. Et un jour, dans une interview, cet acteur, Lon Chaney, dit « Il n'y a pas de Lon Chaney. Je suis le personnage que je crée, c'est tout. » Et là, Scal, l'auteur du livre, dit ceci « S'il était permis à une grande star comme Lon Chaney de ne pas avoir d'identité, alors quel soulagement pour la masse anonyme de ses fans, dont beaucoup soupçonnaient qu'il n'était personne, eux non plus. » Et je crois là qu'on a précisément quelque chose d'extrêmement important pour le prestige des stars, c'est que, comme évidemment le public s'identifie aux stars, là aussi le public se dit que l'identité est malléable et qu'on peut être à la fois personne, et malgré tout être quelqu'un de prestigieux. Et puis il y a quelque chose de base avec tout le cinéma, avec le théâtre, avec les contes, c'est que tous ces divertissements sont d'abord et avant tout des divertissements collectifs. Et donc, comme au cinéma en particulier, mais également au théâtre et quand on écoute des contes, on régresse dans ces divertissements. On devient un petit enfant, on a peur de choses dont on ne devrait pas avoir peur, on se livre à des instincts, à des désirs qui sont socialement inacceptables. Seulement, comme c'est collectif, eh bien, ce sont des moments qui rendent la régression acceptable, puisqu'elle est universellement pratiquée. Pour en revenir à ces personnages qui vont commencer à avoir beaucoup de succès à l'époque, je voudrais parler un instant de ce qu'a dit Roger Dadoun. On connaît Roger Dadoun, un psychanalyste libertaire qui a dû certainement parler assez souvent au micro de Radio Libertaire. Et il a eu une expression extraordinairement parlante pour décrire Nosferatu, Dracula, le fantôme de l'opéra, Quasimodo, et moi j'ajouterais également les gueules cassées, mais ça c'est moi qui ajoute. Il a appelé ces trois personnages, tu es prêt Nicolas, des phalambulistes. Donc phallus, ambuliste, comme des somnambules. Et essayez, auditrices et auditeurs, de visualiser Dracula. Alors, que ce soit le Dracula de Bela Lugosi ou le Dracula de Christopher Lee, il est tout droit. Il est bien rigide. Hein, ces deux vampires-là, c'est pas des gens qui passent leur temps à danser. Hein, c'est pas des danseurs de samba. Ils sont bien tout droits, bien érigés. Ils sont pointus. Alors, Nosferatu, comme j'ai indiqué plus tôt, il est pointu de partout, ma foi, un peu comme un phallus. Mais même les Dracula de Lugosi et de Christopher Lee sont également pointus. On voit bien le visage de Christopher Lee, qui est fondamentalement un visage pointu, très très vertical. Et puis, tous ces, en particulier les deux derniers vampires, donc Lugosi et Christopher Lee, ils sont toujours engoncés dans ces vêtements à apparence rigide, le smoking. En réalité, un smoking, ça peut être extrêmement confortable, mais visuellement, ça semble transformer la personne en une espèce de très long tube. Un tube sombre, et puis avec tout d'un coup, tout au bout, en haut, ben quelque chose qui est fait de chair, quelque chose qui ressemble, pour être très clair, au gland d'un phallus. Et si on réfléchit à l'apparence du fantôme, de Phantom of the Opera, ou de Quasimodo, du bossu de Notre-Dame, eh bien on voit qu'il y a là aussi quelque chose d'extrêmement phallique, et je trouve que Dadoun a eu parfaitement raison de créer cette espèce de description étonnante pour ces personnages. Alors, dès ce moment, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans l'horreur, il va y avoir un couple terrible, mais en même temps, un couple inséparable. Et là, il y a une phrase que j'ai trouvée ailleurs. « Il faut que le désordre ait son ordre. » C'est d'un monsieur qui s'appelle André Combes, et il ajoute « C'est la doxa du genre, c'est-à-dire c'est la loi absolument inexorable du genre de l'horreur. » En effet, les films d'horreur, par définition, introduisent une dose presque intolérable de désordre. Et comme, mine de rien, ces films d'horreur, ces spectacles d'horreur sont là pour procurer la catharsis, pour procurer le soulagement, eh bien, il faut que, quelque part, l'ordre gagne. Et c'est pour ça qu'on trouve, dans les structures mythologiques de ce genre de l'horreur, eh bien, d'étonnantes symétries et oppositions. Alors, le couple dont je parle, c'est très simple, c'est Dracula et Frankenstein. Alors, quand je dis Frankenstein, je fais comme font tant de gens, je commets l'erreur. Souvenons-nous, Frankenstein, c'est le nom du docteur qui crée un monstre. Le monstre, il n'a pas de nom. Le monstre, c'est le monstre du docteur Frankenstein. Mais tout le monde, maintenant, appelle le monstre Frankenstein. Et si vous avez été à l'école primaire française, vous ne l'avez pas appelé Frankenstein, vous l'avez appelé Frankenstein. Mais oui, Nicolas, souviens-toi, tu allais appeler Frankenstein, toi aussi, quand tu voulais insulter un camarade pour lui dire qu'il était laid comme un pou, tu disais « Mais t'as une tête de Frankenstein !» Bon, quelle est cette... Pourquoi est-ce que Dracula et Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein, forment un couple? D'un côté, vous allez me dire que Dracula, qui sont complètement opposés, puisque Dracula est suave... C'est le mot anglais, ça existe en français, mais en anglais, ça désigne quelqu'un d'extrêmement élégant, d'extrêmement bien élevé. Dracula, à la fois phallique peut-être, mais en même temps très, très féminin en un certain sens, puisqu'il prend à la construction genrée de la féminité le fait d'être toujours impeccablement habillé. Et ce côté moitié ceci, moitié cela se retrouve dans le fait qu'il est moitié mort, moitié vivant. C'est quelqu'un qui sait presque tout faire, c'est quelqu'un qui a une compétence extraordinaire dans des tas de choses, c'est quelqu'un d'extraordinairement intelligent également, mais c'est quelqu'un d'émotionnellement complètement froid, c'est quelqu'un de dominant et de socialement prestigieux, puisque Dracula c'est un comte, il a un château. Bien entendu, il y a également toute une analyse dans le livre sur le fait que Dracula est une parfaite représentation du capitaliste, alors d'abord des chevaliers féodaux, des seigneurs, des rois, et plus tard des capitalistes, qui, et là la métaphore est universellement connue, qui sucent le sang des travailleurs. Et Frankenstein, eh bien c'est l'exact opposé. Mais donc, en anglais, opposites attract, les opposés s'attirent. À l'inverse de Dracula, le monstre de Frankenstein, il est extrêmement laid. Il est monstrueusement mal habillé, toujours. Il est maladroit. Il est, en revanche, exactement comme Dracula, moitié vivant, moitié mort, puisque le monstre de Frankenstein est construit avec des morceaux de cadavres. Et puis, là où Dracula est extrêmement intelligent, mais complètement froid émotionnellement, c'est l'inverse. Le monstre de Frankenstein est un idiot fini, mais qui, lui, est capable d'éprouver des émotions. Et donc, le couple, il est très très simple. Dracula, ce sont les élites, oui, qui boivent le sang des travailleurs, et Le monstre de Frankenstein, c'est le prolo. C'est l'ouvrier qui est prisonnier de la machine, mais qui se rebelle. Je dirais que le monstre de Frankenstein, quelque part, c'est Spartacus. Alors, sans l'intelligence, bien entendu, mais d'un autre côté également, on peut dire que dans la vision que les prolos ont d'eux-mêmes, cette vision, elle est double. Et il y a, finalement, nous, c'est nous qui savons quelle est la réalité, mais il y a aussi le fait que beaucoup de prolos se disent « mais je suis prolo parce que je suis con, parce que je ne réussis pas, comme ces bons dieux d'aristocrates qui ont telle ou telle éducation ». En tout cas, tous les deux ont quelque chose en commun, qui est qu'ils sont les représentants d'une sexualité totalement déviée. Alors, pour Dracula, la chose est évidente. Dracula, c'est un violeur. Dracula est constamment en train de violer. Alors, non seulement les femmes, ça, je crois que c'est pas, y a pas besoin de démontrer la chose, mais des hommes aussi, puisque Dracula va aller boire le sang également des hommes. Or, dans les films de Dracula, à nouveau, j'en ai pas vu un seul, mais j'ai pas l'impression qu'il boive le sang de vieux monsieur dégoûtant. S'il boit le sang d'un homme, ça va être plutôt un type viril, soit un jeune homme plutôt attirant. C'est rarement un vieil obèse de 75 ans qu'il va aller...
C'est normal parce qu'il veut de la fraîcheur, de
voilà,
la jeunesse.
Voilà, il veut du sang frais. Oui, exactement, c'est bien ça. Il veut du sang frais, de la fraîcheur. Nous sommes bien d'accord. Quant au monstre de Frankenstein, c'est pareil. Sa sexualité, elle est totalement immature. Elle est infantile. Alors que, visiblement, il a un corps d'adulte. Il n'a soit pas de sexualité du tout... Soit si tout d'un coup elle arrive, c'est une sexualité explosive de quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est que la séduction, qui peut vouloir de l'amour, mais qui n'a pas la moindre idée de comment il faut s'y prendre pour en obtenir. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que le monstre de Frankenstein ? C'est un bébé. C'est un bébé géant. C'est un bébé mal fait, mal fichu, qui a grandi beaucoup trop vite. C'est également, et là, le monstre de Frankenstein fait curieusement écho, c'est une excellente remarque de Scal, au mythe de Dorian Gray. Alors, vous connaissez cette œuvre de, que je ne dise pas de bêtises, c'est bien d'Oscar Wilde, de Dorian Gray, où vous avez donc un monsieur très vilain, un affreux criminel, et quand il est encore jeune et beau, il commande un portrait. Et puis, toute sa vie, lui, il va rester jeune et beau, mais c'est le portrait qui va montrer à quel point il se dégrade, et en particulier, à quel point il se dégrade moralement. Et ces deux monstres, donc, sont des symboles de la vie déviée, de la vie qui ne réussit pas, soit à mourir, soit de la procréation déviée, puisque le monstre de Frankenstein, en réalité, parle énormément de la procréation loupé. Le docteur Frankenstein, au lieu de faire la chose normale, c'est-à-dire hétérosexuel, d'avoir une épouse et avec son épouse de faire des enfants, eh bien, il a peur de ça et il va créer un enfant par un procédé scientifico-mécanique et au fond, psychologiquement, tout simplement par un procédé narcissique. Et Dracula, mine de rien, c'est un peu pareil. Tu vas me dire, Nicolas, Dracula, il n'a pas d'enfant. Mais si, parce que souvenons-nous, un vampire, une fois qu'il a mordu une victime, une fois qu'il lui a bouffé son sang, qu'est-ce qui arrive à la victime ? Elle devient un vampire elle aussi, donc elle devient une espèce d'enfant de Dracula. Donc également, pour Dracula, là aussi, on a quelque chose qui est obsédé par la naissance, la reproduction, la sexualité, tout ça étant dévié.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking,
And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Radio Liberté à 89.4, les Muses s'amusent. Et nous étions en compagnie de Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Et c'est Jean-Manuel au micro. De l'horreur.
De l'horreur. Alors, en plus, évidemment, le studio est sombre. Il est 22h10. Alors, je vois les poils de loup qui commencent à sortir sur le visage de Nicolas. Alors, essayez d'avoir à propos de poils. On va en parler dans pas très longtemps. Tous ces films d'horreur, il y a encore autre chose. Ce sont les problèmes de la puberté. Ils sont traités souvent dans ces films d'horreur. Pensez-y, le nombre de loups-garous, c'est-à-dire de jeunes mâles, ou bon, éventuellement même d'hommes mûrs, mais enfin bref, des mâles, qui tout d'un coup se transforment en loups, c'est-à-dire que tout d'un coup, qui ont des poils qui poussent de partout. Et Nicolas aurait eu la gentillesse d'indiquer ce qui se passe dans le corps des jeunes garçons, où tout d'un coup, la puberté intervient.
Je préfère ne pas le savoir.
Je savais bien que tu étais un grand pudique. Bon, enfin bref, vous voyez bien que la puberté, c'est une histoire de poils. Alors, ces deux personnages, Dracula et le monstre de Frankenstein, du point de vue littéraire, ils existaient donc déjà depuis un certain temps, mais c'est en 1931 qu'on a les deux premiers grands films, qui ont d'ailleurs un succès foudroyant, qui nous révèlent ce couple. Et en 1931, qu'est-ce qui s'est passé juste un peu avant ? La Grande Dépression, le krach de 1929. Là-dessus, Scal, tout d'un coup, rappelle que c'est également le moment où Salvador Dali va peindre un tableau. Et c'est un tableau que tout le monde connaît. Nicolas, Persistance de la mémoire, ça te dit quelque chose de Salvador Dali ? Oui, le titre n'est pas connu. Hein. Mais les montres molles, hein, les montres qui pendent sur une branche d'arbre.
Ça, on connaît, oui.
Hein, ça, on connaît. Eh ben, c'est le titre du tableau.
Persistance de la mémoire. Oui.
Voilà, persistance de la mémoire. Eh bien, le thème, l'un des thèmes de ce tableau extraordinaire des montres molles, c'est la mollesse de la machine. Or, précisément, qu'est-ce qui venait de se passer pendant la Grande Dépression ? Eh bien, ben, la machine industrielle, tout d'un coup, avait eu un sérieux coup de mou. D'ailleurs, juste un an avant, en 1930, et là, ça va être les libertaires vont tout de suite reconnaître, les gens qui connaissent bien les autocollants de la Fédération Libertaire vont tout de suite reconnaître ce dont je parle. Il y a ce film extraordinaire, À l'Ouest, rien de nouveau. Et quel était l'élément visuel qui est tiré de À l'Ouest, rien de nouveau et qui se retrouve sur les autocollants de Radio Libertaire. La paire de mains arrachées et accrochées à des barbelés. Et rappelons-nous, c'est bien ça qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont bien des corps démembrés, défigurés, déchiquetés. Et là-dessus, Scal, dans son excellent livre, nous fait une analyse absolument foudroyante du physique choisi par Hollywood pour le physique du monstre de Frankenstein. Tout d'abord, Frankenstein, il a une tête cubique, géométrique. On est en 1931, Nicolas, le style de l'époque en 1931, ça s'appelle comment ? Alors là, j'entends les neurones de Nicolas qui se battent les uns contre les autres.
Le style vestimentaire,
le style graphique, pictural, architectural. Après l'art nouveau, il y a eu...
L'art moderne.
Il triche ! L'art déco. Donc un art très géométrique, très cubique. Et la tête de Frankenstein, du monstre de Frankenstein, c'est quoi ? Ben, c'est un empilement de cubes. Et d'ailleurs, je vais vous lire une phrase de Scal, que j'ai traduite. « La tête cubique évoque puissamment le destin d'une antique conscience contrainte d'occuper un nouveau paradigme, un cerveau rond, malaisément vissé à une boîte crânienne faite en usine. » Franchement, parfaite description du monstre de Frankenstein. Et Scal prouve ceci en citant un extrait du scénario de ce film de Frankenstein. Le bout de la tête a une espèce de balcon, comme le couvercle d'une boîte. Les cheveux sont courts et à l'évidence peignés par-dessus le balcon pour cacher le joint mal fini par où on a mis le cerveau. Et puis, Scal nous rappelle le coup de génie de l'apparence du monstre de Frankenstein, l'énorme vis à travers le cou du monstre, le symbole suprême de la prise de pouvoir par la machine sur l'homme. Ce qui est évidemment quelque chose de parfaitement logique après la première guerre totalement industrialisée et où c'est la nation la plus industrialisée de l'époque, celle qui a lancé le travail à la chaîne, qui se trouve être celle qui va également lancer les films d'horreur. Et avec son flair psychologique habituel, l'Église catholique principalement, a râlé contre les films d'horreur, mais pour une raison extrêmement simple. L'Église catholique a râlé contre le thème de la rivalité avec la création. Eh oui! À nouveau, notre docteur Frankenstein, il se prend pour Dieu. D'ailleurs, il va y avoir des pays où on va censurer le moment où le docteur Frankenstein dit à propos de lui-même « Maintenant, je sais ce que c'est que d'être Dieu, puisqu'il vient de créer un être humain. » Enfin, bien entendu, n'oublions pas non plus que on va bientôt faire un film sur un autre classique, le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Notons qu'en anglais, c'est tout à fait parlant ces deux noms. Le docteur Jekyll, il y a kill, tuer, et c'est un docteur, donc quelqu'un qui est censé vous sauver la vie, mais son nom ça veut dire je tue. Et puis il y a Mr. Hyde, et Mr. Hyde, évidemment, même si c'est un Y, eh bien c'est le monsieur qui se cache. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui se cache derrière l'identité du bon docteur Jekyll, se cache le double abominable, le tueur quasiment en série. Et là, à nouveau, il y a un thème sur l'exploitation par les capitalistes des travailleurs. Dracula exploite les paysans qui vivent autour de son château de Transylvanie. Le docteur Jekyll exploite une femme prolo. Et quant au monstre de Frankenstein, il est bien entendu un parfait représentant des esclaves du salariat. Mais il y a encore quelque chose de fabuleux dans ce livre de M. Scal. Et là, je cite le livre. « La confrontation de masse de l'année 1931 avec des masques terrifiants et avec des rencontres mélodramatiques imaginaires, avec des paradigmes reproductifs, cette confrontation a bien des aspects en commun avec les rituels initiatiques. Alors c'est là, c'est l'une des raisons pour lesquelles je parlais il n'y a pas longtemps de l'histoire de la puberté et du poil du loup-garou. Qu'est-ce que sont les rituels initiatiques? Qu'est-ce que sont les rites, et en particulier ce qu'on appelle les rites de passage? C'est le grand ethnologue et le grand folkloriste Arnold van Gennep qui a lancé le concept. Un rite de passage, c'est par exemple le baptême, le mariage, chez les juifs, la bar mitzvah, etc. Donc un rite de passage, c'est quelque chose qui rend explicite, qui formalise un changement de statut social ou sexuel. Alors, à nouveau, par exemple, chez les juifs, la bar mitzvah, chez les catholiques, la confirmation, mais dans quasiment toutes les cultures tribales, eh bien, il faut un rite pour passer du domaine des enfants à celui des adultes. Il y a très peu d'adolescence du point de vue social dans beaucoup de cultures tribales, ou alors ces adolescents sont explicitement vus comme faisant partie d'un rite qui peut d'ailleurs durer pendant plusieurs années. Et une autre définition de ces rites qui m'a semblé tout à fait intéressante, ce sont des fictions collectives qui ont pour but d'ordonner la nature. Et moi, j'ajoute plutôt, ce sont des fictions collectives qui ont pour but d'insérer la nature dans la culture. À nouveau, prenons l'exemple de la circoncision juive ou de l'excision africaine. Ben, il s'agit de transformer un corps que l'on voit comme complètement esclave de sa pulsion sexuelle en un corps qui porte la marque de la société. On en revient à cette définition que j'ai donnée un peu plus tôt de M. André Combes. Il faut que le désordre ait de l'ordre. Les rites de passage sont des moyens d'insérer, de prendre en compte le changement. Le changement, c'est quoi? C'est le désordre. Et la fonction du rite, c'est de rétablir l'ordre. Alors, Nicolas, je pense qu'il y a un rite de passage, je ne sais pas quelle est toute l'histoire de ta vie, c'est un rite de passage auquel moi j'ai volontairement échappé, je soupçonne que tu peux y avoir volontairement échappé toi aussi. De quel rite de passage franco-français parlons-nous?
J'hésite entre le baccalauréat et le service militaire.
Ou alors le bac comme rite de passage.
Quand même.
Bof quand même. Mais donc évidemment, en France, pendant quasiment presque deux siècles, le service militaire a bien entendu servi de manière absolument explicite de rite de passage.
Alors je voulais te rassurer, puisque visiblement tu as un mauvais français, que tu y as réussi à échapper, mais tu n'as pas tout à fait perdu espoir de devenir un bon français, puisque le SNU va peut-être t'offrir, peut-être pas comme stagiaire, mais tu pourrais être encadrant.
Je ne demande que ça, je vais me précipiter. Alors, mine de rien, et là je voudrais m'adresser aux plus jeunes des auditrices et des auditeurs, le tatouage, le bordel de merde de tatouage. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, tu l'as peut-être remarqué Nicolas, le tatouage a explosé, on va dire depuis à peu près 2 ou 3 ans, et en particulier chez les jeunes femmes. Et tout d'un coup, on voit maintenant des jeunes femmes qui ne portent pas un petit tatouage dans un coin, mais 4, 5 gros tatouages. Elles ont le bras gauche couvert, le bras droit couvert, elles ont le ventre ou les fesses ou les seins ou n'importe quoi, et avec d'énormes tatouages. Mais c'est très simple. C'est des rites de passage. Et c'est là quelque chose d'assez curieux avec la société humaine, c'est que les rites de passage, souvent, sont décrits par les ethnologues comme une manière, par les anciens, par les vieux, une manière de poser leur autorité sur les jeunes. Oui, mais non, les jeunes les réclament, pour une raison très simple. Le rite de passage, en particulier ces rites de passage de pubertaire, ces rites de passage de l'adolescence à l'âge adulte, c'est une manière pour les jeunes, d'être admis au sein de la communauté des adultes, ce qui est déjà socialement, matériellement, concrètement, souvent extrêmement important, et puis pour eux-mêmes, de se voir comme des vrais adultes garantis avec le tampon. Mais le tampon, c'est le tatouage. Donc voilà, c'était ma contribution à la lutte contre le tatouage, une pratique que personnellement je trouve absolument abominable.
Donc tu n'es décidément pas un adulte.
Oui,
ni
exactement.
Ni service militaire, ni tatouage, je pense.
Oui, je peux te jurer, tu ne m'as jamais vu nu, mais je peux te jurer, je n'ai pas un seul tatouage.
Alors Jean-Manuel est en train de se déshabiller dans le studio de Radio
c'est
Libertaire.
C'est pas vrai, c'est
je
pas vrai.
Je vais fermer les yeux.
C'est pas vrai. Et tout ceci également, comment est-ce que ça fonctionne du point de vue psychologique? Je voudrais rappeler cette merveilleuse théorie, la théorie de la dissonance cognitive. Alors c'est un peu long d'expliquer la dissonance cognitive, mais l'une des choses extrêmement importantes avec la dissonance cognitive, c'est de dire que quand on a une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on a deux éléments cognitifs dans le cerveau, contradictoires, qui luttent l'un contre l'autre, celui qu'on va conserver, c'est celui qui a coûté le plus cher à acquérir, et donc c'est celui qui coûterait le plus cher à perdre. Et c'est la raison pour laquelle les institutions qui veulent obtenir la fidélité de leurs membres, souvent, eh bien, réclament des rites d'entrée extrêmement douloureux ou extrêmement coûteux pour qu'ils soient tout aussi coûteux de les quitter. Alors, nous pourrions continuer longtemps. Là, je vais vous avouer que nous avons parlé... Oh, on a parlé d'un cinquième de ce livre, qui fait quand même, excusez-moi, je vérifie, il fait 400, presque 450 pages. Et là, nous n'avons parlé que de l'année 1931. Mais ce livre continue tranquillement jusqu'aux années 90, puisqu'il a été écrit pendant l'année 1993 et qu'il a été... réédité en l'an 2000. Alors c'est ça qui manque principalement dans ce livre malheureusement, c'est de parler d'Internet. En revanche, il y a des tas de choses tout à fait intéressantes sur les créations les plus modernes du genre de l'horreur.
Radio Libertaire 89.4, c'est la nuit de l'horreur avec les Muses s'amusent. Et c'était, là, c'était pas du tout une horreur, c'était Billy Lee Riley, Flying Saucer Rock and Roll.
Ah, tu t'es pas allumé, top. C'était bien comme chanson. Alors, nous avons donc terminé cette édition des Muses s'amusent, où nous avons parlé de l'excellent livre de Monsieur David Scal, qui s'appelle en anglais The Monster Show, A Cultural History of Horror. Et comme je viens de le dire, nous avons à peine touché en gros un cinquième, allez, peut-être un quart du livre. J'en recommande vivement la lecture. On comprend grâce à ça ce qui se passe et pourquoi, ce qui se passe dans les films d'horreur et pourquoi ils ont tant de succès. On se retrouve comme d'habitude tous les premiers lundis du mois, avec un peu de chance le mois prochain. Nous parlerons de Jean Mallory, le grand explorateur, ethnologue et passablement libertaire, récemment décédé. Avec, nous en parlerons avec au minimum Jean-Luc Porquet du Canard Enchaîné et je l'espère également Alain Leduc de beaucoup de choses, mais entre autres choses, de la libre pensée. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Libertaire. Oh.
Merci Jean-Manuel, c'était donc Les Muses s'amusent, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la nuit continue, et pour démarrer cette nuit, je vous propose de découvrir peut-être un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bruce Joyner, un Américain du sud de la Géorgie, et qui est un des particularité d'être plus connu presque en France, où il n'est pas très connu, mais qu'aux États-Unis, à tel point qu'il a été souvent produit par un label français qui s'appelle New Rose. Je vous laisse découvrir.
A man comes home from work, he's sweating, meets his woman at the door. He shouts, "You've been running around, grinhead," knocks him to the floor. He said, "Who you been messing with?" Pulled him out to weep. The woman rolls over, she wipes her lips and sees that creature on TV. Supper, and he don't seem right. He don't even notice that she's back from shopping in town. She pulls a knife, cuts him on the arm, and he falls to the ground. He said, "Have mercy." Have mercy. Watching the whole real scene. Mom and dad beating on the children and just acting mean. Dad hits Junior, mom slaps sis. The devil's keeping score. For every tear that someone drops, the devil cries more, more, more. He says, "No mercy. No mercy."
Ça te saute dans les bras, c'est comme une belle fille sans gêne et qui te mange, oulala, oulala, comme un poème, un poème qui ne
ne chante pas, il ne te dit pas comment faire, il ne dit pas oulalala. On a la lame et l'amour féroce, on a la lame et l'amour, on a la lame et l'amour féroce, on a la lame et l'amour. On a la lame et l'amour féroce, on a la lame et l'amour, on a la lame et l'amour féroce, on a la lame et l'amour. Hey.
Je pleure, tu pleures, il pleut. Tu n'es pas le premier que je rends malheureux. J'ai cherché le bonheur au milieu du néant. J'ai goûté la douleur et l'amour qui fout le camp. J'ai déjà tout gâché, j'ai perdu la mémoire. Tu n'es pas le premier que j'ai su décevoir. Je pleure, tu pleures, il pleut. Tu n'es pas le premier dans mes jeux amoureux. Oui, c'est vrai qu'avant toi, je me suis sentie belle. Et je sais qu'une fois, j'ai même été fidèle. Aujourd'hui, dans tes bras, quand je ferme les yeux, c'est pareil avec toi, mais c'est pareil en mieux. Tu n'es pas le premier, mais pour moi, désormais, tu n'es pas le premier. Tu seras le dernier, allez viens. Ça fait rien, ça commence aujourd'hui. C'est toi le premier homme du reste de ma vie. Je pleure, tu pleures, il pleut. Tu n'es pas le premier qui va me dire adieu. J'ai bu toutes mes larmes à la santé d'un autre. Et j'ai vécu le bagne et c'était de ma faute. Aujourd'hui c'est ton tour, après tout c'est le prix. Quand on confond l'amour avec la jalousie. Je pleure, tu pleures, il pleut. Tu n'es pas le premier dans mes jeux dangereux. J'ai goûté des merveilles et j'en demande encore. Avec toi c'est pareil, en tellement plus fort. Aujourd'hui c'est à nous, dans ce monde de fous. Si je t'aime à genoux, c'est pour vivre debout. Tu n'es pas le premier, souris-moi s'il te plaît. Tu n'es pas le premier, tu seras le dernier. Allez viens, ça fait rien, ça commence aujourd'hui. C'est toi le premier homme du reste de ma vie. Je pleure, tu pleures, il pleut. Tu n'es pas le premier, mais avec toi, c'est mieux. J'ai déjà fait semblant, j'ai déjà tout promis. Pour tellement d'amants que j'appelais chérie. Mais je rejouais toujours, et c'est vrai qu'un instant, j'ai cru trouver l'amour, et j'ai perdu mon temps. Je pleure, tu pleures, il pleut. Tu n'es pas le premier qui prend feu. J'ai connu des soleils aux douze coups de minuit. J'ai déjà dit je t'aime, et j'ai déjà menti. Mais de toute façon, je ne regrette pas. C'était beau, c'était bon, c'est meilleur avec toi. Tu n'es pas le premier, mais pour moi, désormais, tu n'es pas le premier. Tu seras le dernier, allez viens. Ça fait rien, ça commence aujourd'hui. c'est toi le premier homme du reste de ma vie. C'est toi le dernier homme qui reste dans ma vie.